Le 7 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles. Oumph, le festival de la rentrée. Présenté par... Le 7 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles. Oumph, le festival de la rentrée. Présenté par Desjardins 360D, en collaboration avec Trois Brasseurs, te propose la soirée de la rentrée UQAM. Assistez à un concert gratuit de Fred Fortin, les Hey Babies, les Deluxe, Kenlo Kraknuk, les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido, The OBGMs, Gulfer et Anemone. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet Oumph en 360, présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur oumph.ca.
Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, Oumph, le festival de la rentrée présenté par Desjardins 360D en collaboration avec les Trois Brasseurs te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de NWA, DJ Windows 98, Corias, Fred Fortin, les Hey Babies, Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur oumph.ca.
Choc.ca, c'est ton média numérique qui se lit, se regarde et s'écoute. Si toi aussi tu souhaites prendre le micro pour cet automne, tu as jusqu'au 15 septembre pour proposer un projet d'émission ou de série. Musique, actualité, humour, création sonore ou sujet inusité, court ou long format. Pour en savoir plus, rends-toi sur l'onglet S'impliquer sur le site www.choc.ca.
Tous les vendredis et samedis, le Bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yé-yé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le Bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions.
Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette édition numéro 148 de Rick and Morty. De Pop en Stock. Vous m'excuserez quand je regarde les sujets comme ça à vue d'œil. J'arrive souvent à croiser les effluves, comme qu'on dirait. 148, ça veut dire qu'on est à 2 épisodes avant d'arriver à notre 150e épisode. On vous rappelle que c'est au Divan Orange. Ce sera le 13 septembre. À partir de 17h30, où on va commencer l'enregistrement du 150e épisode, et ensuite, on va faire la fête pour fêter les 5 ans d'existence de la revue scientifique Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, nous parlerons, oui, je le sais, j'allais un peu passer à l'avance et à la vite, on va parler de la télésérie de Justin Roiland et Dan Harmon, Rick and Morty. C'est un sujet qui est extrêmement enthousiasmant pour la majorité des gens autour de la table aujourd'hui.
De l'univers même.
De l'univers.
Et Dieu sait qu'il y a pas mal de monde autour de la table.
Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'univers aussi à couvrir.
Oui, Seigneur.
Ooh, well done, well done. Vous avez entendu la voix d'Elisabeth Simpson, animatrice des Amazones ici sur choc.ca.
Oui, ben c'est tout à fait moi. Et ça me fait tout drôle d'être de ce côté de la table. Je suis comme en congé.
On est bien. On est bien de ce côté-là de la table. Autant que la chaise que moi j'ai devrait toutes, vous devrez tous être envieux, envieuses de où est-ce que je peux poser mon derrière. C'est fantastique. Oui, on va tout faire ça. Comme on vous a bien introduit, vous savez qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. Je vais présenter tout le monde autour de la table. Ensuite, on va faire une brève introduction pour comprendre à quoi ça sert d'étudier Rick and Morty. Parce que, comme vous le savez bien, à Pop en Stock, de règle générale, on a tendance à vouloir étudier les objets et les phénomènes de la culture populaire un peu après qu'ils soient passés. Mais là, on est dans le vif de la troisième saison. Donc, vous nous pardonnerez, on ne sera pas capable d'aborder l'intégrale de la troisième saison, mais on va faire de notre mieux. Et si on a la chance de voyager dans le temps, en plein milieu de l'épisode, qu'il y a quelqu'un qui disparaît, ben il reviendra avec des scoops ou pas. Maxime Robin, bonjour.
Bonjour.
Faut que je fasse la présentation.
Moi, je pensais que je pouvais dormir parce que j'étais allé au bout de la table, mais non.
Non, non. C'est l'autre bord.
T'es la première personne que je vois, hein. Ça fait que t'es comme, tu seras dans mon point de mire. Alexandre Poirier, bonjour.
Hey, salut.
Félicitations pour ton dépôt.
Ben, merci.
Je suis particulièrement.
Merci.
C'est
juste dire que ça buzz, j'entends pas grand chose. Je devrais rentrer en transe à la moitié de l'épisode.
C'est ça quand on dépose. On fait juste vous avertir pour les gens qui sont encore aux études. Et pour les gens qui ne sont pas aux études, sachez que c'est tout un accomplissement d'être capable de faire ce que Alexandre vient de faire. Boris Novaï, bonjour.
Allô.
Ah, c'est pas pire ça. J'aime. T'as amené tout le caverneux de Carpenter dans ta voix.
Ouais, c'est mon Bertium. Du Bertium du début des années 2010.
Oui, exactement, c'est ça. C'est préopératoire.
Oh, oui, tout à fait.
Je te fais pas dire. Roxane Janeway, ma capitaine.
Hello.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, toi?
Oui, très bien. Félicitations pour la prochaine saison du groupe féministe vidéoludique.
Ah, mon Dieu, ça va être de la folie, mais avec des game jams, des rencontres qui s'en viennent, ça va être super cool, on a super hâte.
C'est le fun, j'adore ça, plugger les enfants, non, même, c'est
très. Je suis vraiment contente que tu nous plugues, groupe féministe vidéoludique, allez nous voir sur Facebook, allez nous voir à l'UDM, on vous aime.
Ça va de soi. Et je ne pourrais faire l'émission sans Megan Bédard, bonjour!
Salut!
Allô, félicitations encore pour le dépôt d'Alien, mais bon.
Mais ça commence à dater.
Qu'est-ce qu'il y a de très particulier en refaisant un peu la recherche puis en regardant effectivement qu'est-ce qui se passe avec Rick and Morty qui fait que c'est à la fois un sujet très intéressant pour nous autres, aussi très pertinent, mais aussi un truc qui est, à mon avis, important dans les études de la culture populaire en général, c'est cette idée-là de l'unicité du concept. C'est un fait que j'ai trouvé très intéressant en réécoutant les épisodes, c'est réaliser qu'il y a souvent des épisodes où on remanie un concept qui est bien connu en science-fiction, une trope ou une situation qui appartient à une franchise. Je pense notamment à la franchise des films The Purge. Il y a un épisode complet qui est une variation sur le thème de The Purge. Et ce qui m'a frappé, c'est cette idée-là qu'il n'y a pas de honte dans la télésérie de Rick and Morty de reprendre des lieux communs qui ont été utilisés une ou deux fois, mais qui deviennent comme des propriétés franchisées et de tranquillement les glisser, juste les changer dans une autre orientation. En poursuivant cette réflexion-là, je me suis rendu compte que Rick and Morty est, à tout fin pratique, aux antipodes complètes de Black Mirror. Black Mirror a ce sentiment austère et complexe par rapport à un futur qui devrait nous terrifier et qui devrait nous tétaniser par rapport à l'utilisation des technologies et de la science et ça. Mais Rick and Morty, c'est plutôt l'inverse. Il y a une célébration, il y a une extrapolation, il y a une jouissance avec la technologie qui est vraiment sensationnelle. Et j'utilise le mot sensationnel non pas pour rajouter un qualificatif pour rien, c'est vraiment parce que le mot est juste ici. Donc, dans Rick and Morty, on a, un peu à la même manière de qu'est-ce qu'on fait avec la fanfiction, la possibilité d'explorer autre chose avec un lieu commun. Donc, on le sait bien, Elisabeth, tu nous parlais en introduction à l'extérieur de l'émission, on va le répéter ici, le concept de Rick and Morty provient initialement de...
Oui, mais avant toute chose, parce que je t'écoutais parler et je pouvais pas passer à côté du fait que je trouve que Rick and Morty est une série qui est quand même assez complète et qui plaît justement à un public adulte par, je crois, son espèce de mélange parfait entre plusieurs séries qui existent déjà en animation et qui est déjà très appréciée. J'ai l'impression que Rick and Morty va à la fois jouer sur la question d'un univers hyper développé et imaginaire comme fait Adventure Time. Il y a aussi un énorme bassin de références comme n'importe quelle série qu'a fait voyons, j'ai un blanc tout d'un coup.
Bad Bunny.
Mais voilà, exactement. Et où est-ce que justement on crée une série qui va répondre donc à l'actualité, mais qui va aussi répondre donc à la culture et tout ça. C'est aussi donc très axé, j'ai l'impression, sur un discours cynique comme qu'on peut voir dans des séries contemporaines comme BoJack Horseman. Et il y a aussi, bien sûr, l'utilisation d'un côté irrévérence, de l'irrévérence, dis-je, ou du fait de taper sur tout le monde comme le fait une série comme South Park actuellement. Ce que tu nous disais, en fait, ce que tu voulais que je parle, en fait, plus précisément, c'était sur les origines de Rick and Morty, en fait, qui était lorsque Justin Roiland a fait deux courts-métrages, si je me rappelle bien, sur l'univers de Back to the Future, qui pourrait peut-être être une genre de fanfiction excessivement trash où le Doc et Marty sont dans des aventures de voyage dans le temps et où la plupart des en fait où la totalité des des résolutions de conflits se fait autour de la question de la fellation et du fait que Marty doit donc c'est ça, sucer les balles de son ami Doc, et c'est dans cette espèce de vulgarité là où est-ce qu'on a vu des balbutiements de ce qu'allait devenir Rick and Morty, donc l'utilisation de l'alcool par le Doc, le fait de faire autant de références à la sexualité, l'utilisation du dessin aussi, les dessins que sont Rick and Morty sont identiques à ceux qui étaient utilisés pour ce court-métrage-là. Et aussi, donc, l'utilisation des yeux, comme on parlait, les yeux en nuage qu'on parlait hors d'onde. Et aussi l'espèce de bouche, par en bas, je sais pas comment le dire, mais comme un peu refermée sur elle-même, là, comme,
en espèce de W.
Exactement.
La moue de détresse, ou peu importe.
Là, voilà. Ouais. Ou la moue de complètement vide dans les yeux. Ouais. L'espèce de
l'absence cérébrale.
Exactement. Donc oui, c'est de là que vient donc tout si je peux dire le l'iconographie que va emprunter ensuite Rick and Morty, mais par la suite, donc je pense avec la plume de Dan Harmon aussi qui va s'ajouter au projet, qui va faire justement un univers aussi vaste et un humour aussi réussi.
Oui.
J'aimerais aussi que ils avaient d'abord fait ce cartoon là pour protester parce que comment il s'appelle, t'as Darman puis l'autre
Justin Roiland.
Ouais, Roiland, il avait fait une émission qui s'appelait c'était autour de Cosby, All the Cosbys, je l'avais noté, mais c'était House of Cosbys, puis il avait reçu une mise en demeure pour ça. Et pour se venger, il voulait faire encore plus provoquer une poursuite. Et il aurait fait Doc and Marty, où il a juste ajouté un H et où il y a la musique du film, justement. Finalement, quand ils sont fait pitcher un projet par Adult Swim, ils ont pensé comme... Ah ouais. C'est drôle que dès le départ, ça part comme une provocation.
Ouais.
Mais ça va être bien plus que ça.
Ça devient effectivement bien plus que ça, mais on voit que c'est des tannants.
Oui, c'est ça. Puis il y a vraiment quelque chose d'irrévérencieux tout le long dans Rick and Morty, mais on va souvent, les critiques, j'ai l'impression, vont souvent réduire ça à l'irrévérence. Mm-hmm. Alors qu'il y a vraiment une construction qui se fait. Mm.
Et ça va être définitivement un des sujets chauds par rapport à l'émission dans cet épisode, de parler de comment est-ce qu'on navigue cette ligne-là, que ce soit avec une extrême intelligence, mais aussi avec un grand désintérêt de tout ce qu'il y aurait de politiquement correct, notamment à travers le personnage de Rick, qui l'annonce continuellement qu'il n'y a pas de nécessité à être correct dans la vie.
Mmh. Et on se rappelle que une des premières choses que Rick fait dans le début de la série, c'est quand même, il arrive complètement sous dans la chambre de son petit-fils où il va le rechercher en disant « Nous devons créer un nouveau monde, nous devons dropper des bombes, nous devons tout détruire. » Et ça, je trouve que ça met vraiment bien en place cet univers, justement, où on met carte sur table dès le début quand même sur « C'est ça que tu vas avoir, là. Tu vas avoir des gens qui vont constamment détruire et... »
Ben, on fait un peu une référence au nihilisme actif, là, mm-hmm. si on veut. Je pense que tu voulais en parler un peu plus tard aussi, ouais. du nihilisme, mais c'est un peu ça, l'idée mm-hmm. de planter des bombes, puis de repartir à zéro, puis de se créer une nouvelle set de valeurs, si mm-hmm. on veut. Voilà, c'est juste une référence directe par l'animation mm-hmm. aussi.
Mais ça dit aussi que ce monde-là a tellement peu d'importance que c'est pas grave si on le détruit puis on en fait un autre. Il va toujours en avoir un autre. Il va ouais. toujours avoir quelque chose d'autre de plus.
Et on peut même mourir nous-mêmes parce que de toute façon
on peut avoir un ticket d'échange pour échanger ton Morty
et tu peux prendre le mauvais Jerry puis c'est pas grave
tous les Jerry sont interchangeables.
Je vais passer le micro à l'instant à Megan qui veut nous parler en fait d'un grand concept qui est assez complexe et est-ce qu'on est capable de l'attribuer ou est-ce qu'on est capable de l'appliquer à l'univers de Rick and Morty, mais avant
turn myself into a pickle Morty.
Pickle Rick.
Big reveal. I'm a pickle. What do you think about that? I turned myself into a pickle. I'm Pickle Rick!
C'est à toi!
9/11 was an inside job. Pickle Rick.
Pickle Rick. C'est dur de passer après Pickle Rick, mais donc c'est ça, on voit depuis le début de l'émission que c'est vraiment un objet très très dense, très riche en référence à la culture populaire en général et à la culture, au genre de la science-fiction plus particulièrement, comme tu l'as si bien dit en introduction, Jean-Michel. Donc, on réutilise constamment des concepts. Là, j'essayais d'aborder un peu l'objet parce que c'est très, très gros. Et j'ai figé pendant des semaines avant de réussir à me fixer pour savoir comment j'allais aborder ça, et j'ai décidé de choisir une théorie que j'aime beaucoup, et c'est la théorie du paradigme absent, comme l'a théorisé Marc Angenot. Donc je vais vous l'expliquer brièvement, puis on va voir après ça comment ça peut s'appliquer, en fait comment la série base une grande partie de son humour à partir de ce concept-là. Donc, la théorie du paradigme absent, ça part de deux observations. Donc, d'abord, ça découle de la volonté de développer une définition de la littérature de science-fiction, parce que Marc Angenot s'intéresse principalement à la littérature, donc qui s'éloignerait de la classification par thème. Donc, on fait ça souvent dans les études de la culture pop. Donc, la science-fiction, c'est des voyages intergalactiques, c'est des extraterrestres, c'est de la dystopie, des robots, ou peu importe. Donc, une définition qui est intrinsèquement historique, oui, mais aussi très tautologique. Donc, on essaie de sortir du débat de l'œuf ou de la poule qui dit qu'une œuvre de SF, c'est un texte qui s'inscrit dans les conventions du genre de la science-fiction, mais les conventions sont théorisées à partir du corpus qu'on connaît de la science-fiction. Donc, on tourne un peu en rond. Fait que Marc Angenot essaie de sortir de ça. Et sa deuxième observation, c'est qu'il est facile de reconnaître un énoncé de science-fiction, même quand on sort de son contexte thématique, à cause du vocabulaire qui est employé dans dans les textes, qui est la plupart du temps composé de néologismes, donc des nouveaux mots inventés, des objets, des concepts qu'on invente de toutes pièces, et qu'on entend déjà, t'sais, on pense à Rick and Morty, on pense à des Schmeckles, à Squanch, Squanchy, à un Plumbus, donc c'est toutes des mots qu'on dirait qu'ils font juste comme jeter des lettres de Scrabble sur la table, puis ils font un mot avec ça, puis ça devient un nouveau concept. Donc, il y en a à profusion dans la série. Donc, Marc Angenot étudie la différence entre les mots nouveaux, comme on voit dans les textes de science-fiction, des mots qu'il appelle des mots-fiction. Donc, c'est pas réellement des néologismes, c'est vraiment plus un autre type de construction de mots. Et il compare ça aux mots qu'on utilise au quotidien. Donc, quand on parle dans la vie de tous les jours avec les gens qui parlent la même langue que nous, ou une langue qu'on comprend, évidemment, on est en mesure d'associer les mots qu'on lit ou qu'on entend à des idées, l'idée à laquelle le mot fait référence. Donc, quand on étudie la sémio, le premier exemple, quand on nous parle de saussure, c'est « je vous dis cheval, vous pensez à un cheval ». Puis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la base de la linguistique et de la sémiologie. Donc, il parle de cette construction d'idées, et dans les textes de science-fiction, donc d'une manière un peu analogue, on est un peu en mesure d'interpréter ces mots-là qu'on entend, mais on sait pas à quoi ils réfèrent. Par exemple, dans Rick and Morty, on sait qu'un Schmeckles, c'est une monnaie, on sait pas c'est quoi la valeur d'un Schmeckles, on sait pas à quoi ça ressemble, mais on peut deviner, à partir du contexte qui l'entoure, que c'est de la monnaie.
Puis on sait que 25 Schmeckles, ça nous transporte en bas des escaliers et on peut acheter des boobies avec.
Ouais. Ouais. C'est bon à savoir.
C'est important. Bon à savoir. Donc, voilà.
Ah oui, à cause de la serveuse. Oui, OK, c'est bon, ouais. Merci. Oui, ouais, exactement. Cool.
Donc, je vous cite un peu... je vous cite Marc Angenot, ça risque d'être un peu complexe, là, mais il écrit que ce qui caractérise sémiotiquement l'ASF est d'être un discours fondé sur une syntagmatique. Donc, une syntagmatique, c'est la façon dont on construit une phrase, là, donc l'ordre des mots et les mots qui entourent la phrase, on rajoute des compléments aux mots, mais une syntagmatique intelligible, donc une phrase qu'on peut comprendre, un contexte qui est intelligible, mais des mirages paradigmatiques. Donc, c'est des mots qui n'existent pas vraiment, qui réfèrent techniquement absolument rien de connu, mais donc c'est ça, le paradigme, donc la catégorie de mots à laquelle on réfère, elle n'existe pas, c'est juste une illusion, c'est juste un mirage qu'on construit, et nous, quand on lit ou on écoute la SF, on devine un peu, donc c'est conjectural comme procédé, là. On devine qu'est-ce que ça peut faire par rapport aux mots qui l'entourent, par rapport au contexte.
C'est le concept des schtroumpfs, là, dans le fond.
Oui, exactement. Mais duquel le squanch est vraiment dérivé, là, donc oui. Squanch est vraiment... On devine qu'est-ce que ça veut dire, un peu, mais c'est complètement subverti, parce que squancher... Ça réfère pas à n'importe quoi, comme le mot schtroumpf, où on peut dire schtroumpfé pour remplacer à peu près n'importe quoi. Ça désigne quelque chose de très précis et de très contextuel.
Oui et non. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand, dernier épisode de la deuxième saison, lorsqu'il marie Bird Person, ouais, exactement, il explique que tu peux utiliser squanchy pour n'importe quoi et
Ouais, mais quand Beth essaie de l'utiliser, c'est comme non, mais dis-le pas comme ça.
C'est ça, fait qu'il y a comme un espèce de tu peux dire n'importe quoi avec, mais dis pas je vais aller schtroumpfer quelque chose parce que ou je vais aller schtroumpfer quelqu'un. Tu sais, c'est le squanchy devient
Mais tu peux dire je vais aller schtroumpfer quelqu'un pour dire je vais aller l'aider.
Oui, c'est ça, mais dis pas je veux aller squanchy c'est un squanchy frigo parce que là t'es peut-être allé trop loin par rapport à ça. Puis ce squanchy par rapport à ce que tu es en train de dire, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que c'est un mot qui est un faux fuyant. À chaque fois que tu as l'impression d'avoir une définition, il y a un personnage qui arrive et qui est comme oh non, ça, pas dans ce contexte-là.
On n'a pas assimilé la syntaxe qui entoure le squanch ou le verbe squancher ou peu importe.
S'il existe, moi je pense que c'est un piège.
Mais justement, c'est ça, c'est là-dessus qui est basé une très grande partie des jeux de langage dans Rick and Morty. C'est le fait que on nous donne l'illusion qu'on peut essayer de comprendre et pour nous dire mais vous avez rien compris de toute façon parce que c'est pas vraiment ce que vous pensez que c'était. Donc, on nous offre le paradigme, le code, on nous donne l'illusion de nous l'offrir, mais on nous l'enlève à la dernière minute, comme avec le squanch, ou même avec le plumbus, qui est un de mes exemples préférés, parce que la règle, c'est qu'on pourra jamais dire à quoi ça sert un plumbus, même si tout le monde veut savoir à quoi ça sert, mais on sait vraiment bien comment c'est fait dans l'épisode, justement, où il y a un... C'est une espèce de rip-off de How It's Made. Puis là, on parle de comment c'est fait un plumbus, puis comment tout le monde en a un dans sa maison. Puis on sait tout de quoi ça a l'air, mais on sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est ça, là, ça joue sur la subversion du paradigme, la subversion du code. Puis c'est vraiment toujours sur la limite entre vous avez compris, mais vous avez pas vraiment compris. Mm-hmm. Les écrivains, justement, ils font totalement référence à ce processus-là qui est intrinsèque à la littérature de science-fiction et le subvertissent à des fins humoristiques. Mm. Bon, c'est que je t'ai rendu avec toutes ces digressions. Oui, c'est ça. Donc, le paradigme, c'est le code qui pourrait nous permettre d'accéder à la signification des mots. C'est totalement abstrait, mais c'est aussi complètement illusoire parce que ça n'existe pas. Enfin, c'est juste, ça découle juste de notre volonté à le faire exister et à croire son existence. Et comme ça, on lui donne sens. C'est de penser qu'il y a vraiment une explication au plumbus, puis on sait à quoi ça sert, mais dans le fond, il n'y en a pas d'explication. Ça n'existe pas.
Comme avec le sens de la vie.
Donc, c'est ça revient toujours.
Et voilà.
Ce thème-là se répercute dans toutes les sphères dont. En partie dans l'écriture, donc du show au complet. Là. Donc c'est ça, on joue vraiment sur la façon classique de faire des références, de créer des énoncés, de créer des mots fiction, comme l'épisode où il décide de Cronenberg the world. Oui. Donc, il fait un verbe avec le nom de Cronenberg, puis on voit ça, c'est la façon classique de le faire.
Les créateurs de Rick and Morty trippent sur Cronenberg, là, vraiment. Là, je veux dire, il y a encore une référence dans un épisode récent avec Jeff Goldblum, là, qui est une créature quelconque avec une face de Jeff Goldblum, mais bon, c'est une référence justement à The Fly, fait que je sais pas. Bon.
Puis c'est dans cet épisode-là que justement il va dans une machine qui est censée le faire transporter, transférer comme les deux ensemble, puis finalement c'était pour le téléporter, mais il savait
c'est
pas comment.
C'est de la toxine, ça, c'est.
Oui, exactement.
Ouais. Mais dans cet épisode-là, il y a justement c'est l'épisode où ils rentrent dans un trou noir, puis là ils ont une
désintoxication,
une illumination, ils comprennent mieux la vie, puis ils décident de genre c'est à ce moment-là en fait que Jerry décide de devenir un être indépendant et de Rick d'accepter que Jerry c'est un trou de cul, mais bon, c'est comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a la façon classique de créer des mots, pour revenir à ce que je disais, et il y a la subversion qui passe sans cesse par le bris du quatrième mur. Donc ça me fait penser à dans l'épisode de Rick's 10 Minutes où ce qu'il y a la bande-annonce de Two Brothers. Donc,
Two Brothers.
Faudrait que j'en retrouve la quote, mais c'est assez intense. Puis là, il y a juste Rick qui regarde la télé puis il dit « Ah, it's got almost an improvising tone ». Donc, on voit que ça brise un peu le quatrième mur de ce procédé-là en disant « Ouais, mais vous pensez qu'il y a vraiment un univers ?» Parce qu'il regardait la télé nécessairement dans un show de science-fiction. Ça donne une sorte de profondeur illusoire au monde. Mais c'est juste pour vous dire « Mais on improvise, là. On dit vraiment n'importe quoi ici, mais vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose en arrière de ça. » Et ça joue sur ce décalage-là.
Mais c'est drôle parce que Dan Harmon a aussi déclaré qu'il n'y avait aucun message secret. En fait, qu'il n'y avait pas mis de Easter egg, là, pour pas avoir la bonne expression sur la langue, là, mais qu'il n'y avait pas de théorie supplombante par rapport à Rick and Morty, parce qu'il savait qu'il se confrontait à l'Internet en général, qui finirait par le trouver, puis qu'il a fait comme, garde, laisse-moi, je vais rien faire, qui est planifié depuis le deuxième épisode de la première saison. Il y a aucune graine qui est plantée dans la télésérie qui va se révéler plus tard, parce que
comme l'antithèse de Game of Thrones à ce point-ci.
Exactement. Il y a tellement de disséquages qui se fait de chaque épisode. Vous m'avez tous appris l'existence d'une chaîne YouTube qui fait des épisodes d'une heure par épisode. Mm-hmm. Ce secret-là, tu pourrais pas y arriver.
Mais j'ai vu une entrevue justement de Dan Harmon récemment qui dit que la seule vraie signification de Rick and Morty, c'est « nothing matters ».
Exactement.
En ce sens-là, à partir du moment où on accepte que « nothing matters », then « everything is meaningful mm-hmm. ». Et c'est pour ça que le personnage de Jerry, par exemple, est un personnage pour qui, ben, passer la tondeuse devant chez lui, ben, c'est un bonheur, parce que pour lui, tout a de la valeur, alors que pour Rick, qui vit dans une espèce d'état de constant d'illusionnement face à la vie, c'est un petit peu plus difficile une fois qu'on se rend compte justement que rien a de l'importance. Fait que c'est un peu ça, je pense, le seul message que les créateurs veulent vraiment mettre de l'avant dans la série, c'est nothing matters, mais whatever.
Mais nothing matters, mais on cherche encore à faire du sens avec qu'est-ce qui nous est donné.
Exact.
Puis aussi, d'une certaine façon, ce qu'on devrait vraiment les croire, les créateurs, parce que moi, je regarde souvent Adult Swim publie sur la page Facebook des making-of avant la sortie de l'épisode. Et je me souviens du making-of de l'épisode de Vindicators 3, dans lequel il disait, il présentait le vilain Destructor, qui serait un vilain super important pour la saison. Et le vilain
il est une scène.
Ouais, c'est ça.
Ben, donc, il est mort off-screen.
Ouais, c'est avant qu'on le voit. Ouais, c'est ça, carrément. Donc,
ah, mais les morts off-screen, c'est rendu une tendance très importante à la télévision ces temps-ci, là.
Ouais, vraiment, mais est-ce qu'on devrait vraiment croire les créateurs quand ils nous disent qu'il n'y a pas de long con cinématique ou peu importe?
En essayant de nous justement de subvertir ça, on va plus vers l'extérieur, mais le show se referme un peu sur lui-même et construit par la répétition des termes qui font aucun sens. Sa propre, ce qu'on appelle une xéno-encyclopédie, donc c'est dans les études sur la science-fiction, c'est une encyclopédie qui ne réfère à rien dans notre monde tangible à nous, mais qui se construit au fur et à mesure, de la lecture, mais du visionnement de la série. Donc, on finit par faire continuellement à soi-même, et c'est très important parce que Justin et Dan savent que les fans vont réutiliser toutes ces choses-là, comme le Pickle Rick, comme Get Swifty, comme justement le...
Tiny Rick!
Mais c'est ça! Donc, tous ces mots-là, ce langage-là est réutilisé par les fans et est réutilisé en écho. Même dans la série actuelle, on voit des choses donc qui se répètent, et on sait à quoi ça fait référence parce qu'on les a vues dans les saisons précédentes. Mm-hmm. Pardon. Fait qu'on fait toujours retour à soi-même, et il y a quelque chose aussi que justement Marc-Angelo étudie pas parce qu'il étudie la littérature, mais le fait que ce soit un cartoon, ça nous amène quelque chose, une altérité visuelle qu'on peut pas avoir dans un texte de science-fiction, puis ça rajoute une autre dimension selon moi, où justement ça me fait penser à Mr. Poppy Butthole, donc il est comme une petite créature jaune. On voit que c'est une certaine espèce extraterrestre. Puis il y a, dans les Vindicators, il y a comme un autre
Noob Doob
qui a l'air de devenir de la même planète. Donc on les reconnaît comme ça. Il y a Gazorpazorpfield dans l'épisode de Rick's Team Minute. Donc c'est Garfield qui est né sur la planète Gazorpazorp. Donc il y a les bras sur la tête.
Ah, oui.
Puis on le revoit plus tard dans une autre émission où ce que Jerry est dans un hôpital extraterrestre, puis il écoute encore la télé. Donc il y a toutes ces échos-là qui se font, qui fait que la série finit par se refermer sur elle-même. Puis peut-être que si Rick and Morty réussit à faire 10 saisons, on pourrait passer une saison complète à faire que des références, puis on va tout comprendre, même si quelqu'un qui a jamais écouté ne comprendra pas les références. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui fait que c'est de plus en plus auto-référentiel comme série.
Mm-hmm.
Voilà.
Fantastique, parce que ça fonctionne très très bien avec ce que Boris voulait venir nous aborder, mais d'abord et avant tout... Boris, comment ça va?
Ça va bien. Ça va bien, toi?
Ben oui. Yes. Mais c'est ça, cette idée-là de Zeno Encyclopédie est vraiment importante à l'interne de la télésérie, mais elle est aussi très, très importante par rapport à tout le corpus qui a inspiré cette télésérie-là, n'est-ce pas?
Exactement. Puis ça va commencer par un mashup, là. Ça ressemble à un mashup de concept de film. Les premiers épisodes, ça va être... on va mettre Inception puis Nightmare on Elm Street ensemble avec Landmore Man. Puis il va y avoir aussi les titres d'épisodes qui m'ont souvent suggéré ce mashup-là. Il va y avoir des jeux de mots avec des concepts. Raising Grizzle Puzzorp, ou mon préféré, M. Night Shyamalan Aliens. mais assez rapidement, ça va plus être ça. Ça va plus être de la référence. Puis ça va... oui, il va en avoir, mais ça va pas être juste un mashup. Puis même les titres, ça va juste être des blagues, des puns. Total Recall, ça va avoir aucun rapport avec le film Total Recall. Ça va être vraiment une autre histoire complètement différente. Une histoire originale créée à partir d'un concept original. Et puis là, on s'éloigne de ce jeu de référentialité un peu vide ou juste basé sur le divertissement. Puis on s'en va dans une construction de sens, comme souvent on va avoir dans des séries de science-fiction, entre guillemets, sérieuses ou honnêtes. Et c'est pour ça que je pense que Rick et Morty, c'est malgré son supposé cynisme, c'est quelque chose de très honnête comme série. C'est un discours et une construction narrative très, très honnête. Alors, tu sais, je pense qu'il s'inspire beaucoup, justement, des séries comme Les Simpsons puis des séries comme Futurama. Futurama aussi, qui a joué un peu cette game de Easter egg, puis cette game de... le personnage que vous avez vu dans le premier épisode de la première saison, c'est un très important personnage dans le quatrième film DVD après quatre saisons. Fait que il jouerait plus cette game. Moi, je pense que Rick et Morty jouera pas cette game-là parce qu'ils n'en ont pas besoin, puis parce que... Il y a tellement de richesses par rapport justement à ce que Megan disait, par rapport justement à tous ces univers-là auxquels on fait référence, puis qu'on suggère qu'ils existent. Comme souvent, on parle de ces langages-là, puis de ces espèces d'extraterrestres-là, mais aussi, je pense au premier épisode où ils sont en train de se faire poursuivre, puis il y a comme quelqu'un qui éternue, puis l'éternuement est en train de se transformer en bébé qui grandit, vieillit, puis meurt. Puis Morty regarde, puis il fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis Rick fait, on n'a pas le temps, là. Occupe-toi pas de ça. Puis plein de ces suggestions-là qui créent dans notre imaginaire des mondes possibles qu'on n'expliquera pas nécessairement. À un moment donné, on va les expliquer. À d'autres moments donné, non. Qui me fait justement penser à... Je pense que, oui, des séries comme Futurama, mais aussi des séries comme Star Trek, comme Twilight Zone, sont très importantes.
D'ailleurs, il y a, dans le premier épisode de Rick and Morty, une référence à Star Trek. Il y a un Ferengi qui attend dans la ligne aux douanes, où il faut qu'il passe les seeds qui sont way up your butthole, Morty. On dit qu'il n'y a pas vraiment de Easter egg, mais il y a un Ferengi dans le premier épisode, dans le pilote. C'est ma constatation d'hier en essayant de réécouter tous les épisodes de Rick and Morty.
Je pense que c'est pas innocent parce que je pense que toutes les fans de ce genre de série-là doivent quelque chose à Star Trek. Cette idée de comme on va prendre un concept puis on va l'explorer pendant un épisode en se projetant dans un univers, en se projetant dans le futur. Mais aussi, je ne sais plus trop qui a parlé de BoJack Horseman, mais je pense...
C'était moi.
Oui, mais BoJack Horseman aussi, je trouve que ça me fait beaucoup penser à cette série-là parce que on parle souvent de BoJack Horseman pour justement parler de séries télé qui vont s'éloigner de cette espèce de tendance. Cette espèce de tendance de séries animées pour adultes, mais qui sont finalement mises de côté par des gens sérieux parce que c'est juste... de l'outrance, de la vulgarité. Souvent, ça va cibler un public d'ados ou de batté, de basé, de prépubères, de gars sur le BS. Mais
toutes ces réponses.
Toutes ces réponses. Et justement, Adult Swim qui s'est fait connaître avec ce genre de séries-là, des séries comme... Ben comme, voyons, c'est quoi le Aqua Teen Hunger Force?
Force, Harvey Birdman, Attorney at Law, Moral Oral.
Qui sont des séries extraordinaires. Là,
Pickles, The Demon Dog.
Mm-hmm.
Que oui, je vous suggère aussi. Pas nécessairement.
Pourquoi non. pas?
Ben moi, je le connais.
Ouais,
pas,
c'est un peu particulier, mais bon.
Je connais de nom.
Tout Adult Swim doit être conseillé chaleureusement.
Oui. Mais là, on va avoir plus. On va avoir une construction d'univers plus émotive, plus honnête. On est plus comme juste. On va essayer de faire le plus de cutscenes possible, comme The Family Guy. Puis l'histoire n'a pas d'importance. On va avoir des personnages vrais qui sont complètement dans un monde vrai, puis ils vont évoluer, puis ils vont changer. Puis je pense que c'est pour ça, c'est le fait de mettre ces deux univers ensemble, ces deux concepts ensemble qui fait que ça marche aussi bien. C'est que c'est une série avec, entre autres, un personnage extrêmement cynique, mais c'est une série très, très honnête. C'est pour ça que je dirais que Rick est nihiliste.
Mm-hmm.
Parce que il sait tout, il est capable de tout, donc forcément c'est une espèce de personnage dieu, c'est un personnage mythique.
Chose qu'il répète à outrance durant la série.
Oui, surtout dans le dernier épisode où ce que il y a le toxic Rick qui est comme I am God, puis il arrête pas de le crier là.
Et que tout le long des autres épisodes, en fait, il fait souvent référence au fait que Dieu est mort et que là, ben Dieu est mort et dans le fond, je l'ai remplacé en tant qu'homme, mais aussi en tant que comme de science surtout, je pense.
Mais je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette idée-là, dans l'idée que Dieu est mort, c'est né surtout avec l'arrivée de la science qui peut tout expliquer.
Mm-hmm.
Et c'est un peu ce que Rick fait. Je me souviens d'un moment dans l'émission, il dit, ce que tu penses qui est l'amour, c'est juste une série de réactions chimiques. Ouais. Donc, on essaie d'expliquer, Rick en tout cas essaie d'expliquer absolument tout ce qui existe par la science. Et donc, en ce sens, fait un petit peu perdre le mystère de la vie ou le côté poétique de la vie en l'expliquant de manière scientifique. Donc, je pense que ça rejoint un peu, tu sais, l'idée de base d'un nihilisme, d'un monde où la philosophie et la métaphysique sont plus vraiment nécessaires pour expliquer le monde.
Mm-hmm. J'ai lu un article de Wire où justement il y avait plusieurs gens du monde de la science-fiction, que ce soit des éditeurs ou des auteurs, qui parlaient de Rick and Morty puis qui disaient comme quoi c'était vraiment de la science-fiction. Il y en avait un qui prenait l'exemple justement de Total Recall qui disait que ça aurait très bien pu être une nouvelle de science-fiction, une très bonne nouvelle d'ailleurs, puis qu'on est dans l'humour, mais que c'est pas parce qu'on est dans l'humour qu'on construit pas quelque chose.
Non, parce qu'on reprend les codes de la science-fiction de manière assez incroyable. Là, je me souviens. À un certain point, on rit beaucoup de ces cas de la science-fiction là, aussi de la manière dont on prend des paradigmes scientifiques qui sont mentionnés presque littéralement dans les épisodes. On parle de Heisenberg, on parle de Schrödinger's cat aussi.
Pluriel. Cats.
En effet.
Il y a aussi l'épisode où il y a sa batterie d'auto qui fonctionne plus, puis il faut qu'il y ait la batterie, puis il y a juste Morley qui dit je me souviens plus c'est quoi le terme, mais genre ton truc qui marche plus, puis dire, mais tu peux pas juste utiliser un mot scientifique puis un mot d'auto puis les coller ensemble puis dire que ça peut faire ça puis sa batterie c'est exactement ça.
Qu'on rit des conventions de la science-fiction qui consiste essentiellement à juste prendre des termes scientifiques, les plugger où ça fonctionne pour faire avancer l'arc narratif, mais on fait exactement la même chose, donc on en rit pour l'utiliser à la suite pour faire avancer l'arc narratif. Donc c'est une méta-réflexion, mais c'est
sans arrêt, c'est pas juste dans la construction des codes scientifiques, il y a même des commentaires narratifs. Parce que j'ai le wiki avec les quotes devant moi, puis à un moment donné Rick il dit you ask a lot of questions not very charismatic of you, mais c'est comme un commentaire sur la construction du personnage de Morty, comme plein de même là. Il y a même pas une nuance. Il y a toujours un méta-commentaire, justement.
Mm-hmm. C'est ça, mais ça va pas juste être... On va pas juste sortir des concepts de science-fiction. On va les pousser, on va les travailler. On va construire une histoire autour de ça, puis on va aller le plus loin possible. Puis ça, c'est de la vraie science-fiction. Puis c'est pour ça que c'est pas juste... j'adore Futurama, puis Futurama a fait ça dans ses meilleurs épisodes. Mais des fois, Futurama, c'était juste ça. Puis des fois, ça allait plus loin.
Mm-hmm.
Rick and Morty, c'est ça fois 1000, c'est comme la prochaine étape.
Ben c'est qu'en même temps aussi il y a ce truc qui est pour tout fan de science-fiction un peu envahissant, c'est qu'il y a tellement de bonnes idées que tu ne peux pas te permettre d'être ennuyeux. Mm-hmm. Je parle pas seulement de Rick and Morty, je parle de la science-fiction en général. Mm-hmm. La possibilité du monde science-fictionnel est tellement vaste que emmerde-nous pas.
Ouais. T'as pas le droit.
Exactement. Ouais. Je veux dire, c'est le plus grand désastre fictionnel que tu peux faire, c'est nous amener dans un monde imaginaire, impossible et ou possible, puis de, une fois qu'on est là, nous ennuyer ou de nous rendre désintéressés de ce sujet-là. Chose que Rick and Morty fait pas parce qu'il y a continuellement des explosions, des cris, des rappels, tu sais, de la postmodernité référentielle à toute allure à l'interne de la série, à l'extérieur de la série. Donc, au moins, c'est comme tu le dis, au moins soyez vif, tu sais, au moins soyez intelligent, soyez réveillé.
Le personnage de Rick est lui-même désintéressé parce qu'il y a déjà trop de choses. Il y a des choses plus importantes que les choses qui se passent là. Il y a des choses plus intéressantes qu'on va aller voir que qu'est-ce que tu es en train de voir. Et tu te dis, qu'est-ce qui va être plus intéressant que comme un monstre qui est en train d'exploser? Ben, c'est encore d'autres choses. C'est de la surenchère par-dessus surenchère. Mm-hmm.
Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que la série n'est pas nihiliste aussi, parce que là où commence le nihiliste continue la vie, tu sais, c'est comme Camus, puis face à l'absurdité, ben, je réagis, je me révolte, ben là ça va être justement la recherche de quelque chose de vrai dans toute cette absence de sens, puis la recherche d'un sens par les actes, par l'émerveillement, par toutes ces choses étranges qu'il y a dans l'univers.
C'est fantastique.
Encore une fois, when nothing matters, everything is meaningful.
C'est ça, exactement.
Bon, merci beaucoup, Boris. C'est quand même un très bel argument puis une extrapolation philosophique sur la série que je m'étais pas fait malgré le binge-watching nécessaire pour préparer une telle émission. Et sur ce... Fallait. Je passe le micro à Roxane qui veut nous parler de la théorie des mondes possibles.
Ah, mon Dieu, oui. En fait, la théorie des mondes possibles, malheureusement, il va falloir qu'on commence ma présentation avec une portion théorique, comme Megan l'a fait, parce que théorie des mondes possibles, ça ratisse large. Et donc, en fait, la théorie des mondes possibles, c'est une idée qui a été posée par Leibniz dans sa Théodicée pour parler de la totalité des mondes qui pourraient être imaginés par un être divin. Donc, c'est tout d'abord, en fait, une théorie métaphysique, mais la théorie a librement été reprise plusieurs centaines d'années plus tard par le logicien Saul Kripke pour rendre compte des conditions de vérité des énoncés propositionnels contrefactuels. Ça a l'air un peu complexe vite comme ça si on n'est pas super familier avec la logique formelle, mais en fait, c'est super simple. Il suffit de penser à un énoncé comme, par exemple, si Trump n'avait pas gagné à la présidence américaine, on ne serait pas à l'article de la Troisième Guerre mondiale en ce moment. Et donc, la théorie des mondes possibles nous permet de poser un monde dans lequel cet énoncé-là serait vrai, et donc on peut en vérifier les conditions de vérité et on peut explorer justement ce monde-là dans lequel on ne serait pas à l'article de la Troisième Guerre mondiale. Le concept a été repris encore un peu plus tard par les narratologues, c'est ceux avec lesquels je suis la plus familière, parce que c'est un peu ça mon sujet de mémoire, dont Marie-Laure Ryan, Delogel et Pavel, qui vont l'appliquer à deux théories principales, c'est-à-dire les théories de la fiction et la description sémantique des mondes narratifs qui sont fictionnels ou non. Donc, on peut l'appliquer au monde qu'on dit réel ou au monde fictionnel. On s'en sert pour penser justement les questions de vérité dans les mondes littéraires, pour penser à la nature des mondes fictionnels, mais aussi pour comprendre les relations qui existent entre les mondes fictionnels et notre réalité. Sans aller vraiment plus loin que ça, on voit quand même facilement comment on peut l'appliquer à Rick and Morty. Parce que Rick peut, avec son portal gun ou son fusil de portail intergalactique qui est interdimensionnel, il peut voyager à travers des univers parallèles. En ce sens-là, on peut penser le Portal Gun comme étant une espèce d'outil d'exploration des mondes possibles de cet univers fictionnel-là, mais également des sous-mondes possibles qui appartiennent à chacun de ces mondes-là qu'on peut explorer, incluant les mondes fictionnels. Ce qui est super intéressant, et là, on tombe dans une abysse infinie de sous-mondes possibles et de mondes parallèles, fait que peut-être que ça va tomber dans le un peu pas très clair, ce que je vais dire, mais on va essayer d'y aller quand même.
Quand même un panel d'experts ici pour
être capable de suivre les mondes parallèles et parallèles. Et donc, je pense que mon épisode préféré, pour explorer la question, et aussi surtout parce qu'il fallait que j'en choisisse un, parce que honnêtement, j'aurais pu parler de n'importe quel épisode à partir des mondes possibles. Mon épisode préféré, c'est Rixty Minutes, que Megan a mentionné un peu plus tôt, qui est l'épisode dans lequel Rick invente une espèce de dispositif pour regarder la télé à travers les dimensions. Et donc, dans ce cas-là, on explore des mondes possibles alternatifs, c'est-à-dire des dimensions alternatives que Rick explore déjà souvent avec Morty dans ses aventures. Mais la différence, c'est que là, on explore des mondes à partir de leur sous-monde fictionnel. Donc, on regarde des bandes-annonces d'un film. Mon Dieu, c'est plate que j'ai encore perdu la quote, le titre du film de
Attends,
Two Brothers.
Je veux le dire.
OK, vas-y.
Alien Invasion, Tomato Monster, Mexican Armada Brothers, were just regular brothers running in a van from a Nestor asteroid and all sorts of things, the movie.
Voilà.
it's just called Two Brothers.
Exactement. Donc, on peut explorer, justement, les mondes alternatifs à partir de ça. Il y a aussi la série classique Ball Fundlers, qui est géniale. Et il y a, par exemple, quand on voit la première scène qu'on voit, c'est on peut regarder la télé dans un monde alternatif où les humains auraient évolué en étant des épis de maïs, par exemple. Donc, c'est à travers la fiction télévisuelle de ces mondes-là qu'on découvre ces mondes-là sans vraiment nécessairement les visiter, à part pour Gazorb Azorb qu'on a déjà visité, mais qu'on revoit à travers la fiction. Et donc, ce que les mondes possibles permettent de faire, c'est de mettre l'accent sur le caractère nihiliste et cynique de l'émission, comme Boris mentionnait un peu plus tôt, même si c'est à la limite entre l'existentialisme, le nihilisme, l'absurde de Camus, donc c'est un peu tout ça mélangé. Et donc, on montre une infinité de mondes dans lesquels il existe une infinité de Rick et de Morty, puis ce qu'on met de l'avant, en fait, tout au long de la série, c'est l'idée selon laquelle la vie individuelle de chacun, lorsqu'examinée à la lumière de l'univers tout entier, c'est complètement insignifiant. Bien, il y a rien qui importe véritablement. Puis comme le dit Morty à sa sœur dans l'épisode justement de Rixty Minutes à la fin, il lui montre son corps, puis il lui dit, puis je le traduirai pas parce qu'honnêtement ça part de son essence, j'ai essayé de le faire, il dit « Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die, come watch TV. » Et donc, la télé, dans cet épisode-là, est à la fois un reflet de la multitude infinie d'univers, mais aussi la porte de sortie que représentent les mondes fictionnels. Et donc, la télévision est présentée comme un échappatoire face à ce nihilisme, ce cynisme-là, à cette idée que l'existence elle-même est insignifiante, mais aussi est présentée comme une finalité en elle-même, parce que, dans le fond, so what si la télé est une porte de sortie dans la mesure où on accepte que rien a de l'importance, et donc, comme je l'ai répété plusieurs fois, nothing matters, everything is meaningful. Si à partir du moment où on accepte que la vie n'a aucun sens, tout devient important. Donc, on peut voir à travers cet épisode-là en particulier, mais à travers tous les épisodes, une réflexion des créateurs sur leur propre émission, en quelque sorte. Et donc, là, moi, j'arrive avec ma théorie qui est un peu spéciale, mais que Summer est le meilleur personnage. Parce que dans cet épisode-là, en particulier, on voit que Summer est un peu le spectateur. Summer est le personnage qui regarde les aventures de Rick et Morty de l'extérieur, qui veut toujours y participer, qui va réussir à le faire à un certain moment, mais au début, elle y regarde de l'extérieur, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et Summer, dans cet épisode-là, est particulièrement mise face à l'insignifiance de sa vie, parce qu'elle regarde ses parents qui, si dans la plupart des univers parallèles, n'ont pas choisi de l'avoir. Et même quand elle existe, ben, elle est en train de jouer au Yahtzee ou à des jeux de société en général avec ses parents. Il n'y a pas d'aventure formidable, il n'y a rien qui lui arrive. Elle sait que son existence est contingente, puis que, peu importe, sa vie est inutile. Et donc, c'est un peu ça que Rick et Morty met en plein dans le visage du spectateur constamment. C'est que si on se met au niveau de l'univers ou des univers, in the end, ton existence n'a pas vraiment d'importance. Puis, d'importance. Et donc, Rick s'adresse un peu directement au spectateur en ce moment-là en lui disant, viens écouter la télé, viens voir les choses qui, dans le moment, ont de l'importance, et un peu essayer de se sortir de ce cynisme et de ce nihilisme-là qu'on nous met dans la face à chaque épisode. Et donc, je pense que c'est une belle manière de, avec le personnage de Summer, de nous mettre en pleine face de l'abysse infini du nihilisme et du vide, mais aussi de nous en sortir en même temps.
C'est drôle parce que ça fait un écho à ce qu'Alexandre disait tantôt sur le fait que Jerry est quand même le personnage que t'as toi-même appelé...
DDC.
Quoi?
Non. Délaissé.
Délaissé, non ouais. Pas délaissé, mais c'est quand même...
Détestable.
Ouais, c'est ça, qui est la tête à claque essentiellement, mais lui aussi, il a une position extrêmement défendable au sein de la télésérie.
Absolument.
Puis là, parce que vous avez réussi de façon très constellatoire, est-ce que ce même argument-là pourrait être porté pour tous les autres personnages? Ben, comme là, Roxane, tu défends...
Summer.
Jerry.
Mais je... Ouais.
Morty, on sait que le dernier épisode...
Non, je le défends pas.
Non,
c'est ça. Mais Jerry, c'est quand même un très bon personnage.
Oh oui, c'est un excellent
personnage. Au-delà de la qualité, mais je veux dire, qui a raison dans la télésérie? Ben, qui est l'argument? Parce que bon, c'est ça, là. Mais, qui est en train de se...
J'ai l'impression que le personnage qui a raison dans la télésérie, c'est un peu Morty.
Ouais.
Si on peut... Jumper sur l'argument de Roxane. Si on peut dire que Summer, c'est un peu la représentation diégétique du spectateur à l'intérieur. Jerry, ça pourrait l'être aussi. Beth, ça pourrait l'être. Mais Morty est un peu comme le point...
C'est un personnage modérateur.
Entre le spectateur et vraiment le monde. Puis c'est un personnage qui évolue aussi un peu en même temps que le spectateur, parce que moi personnellement je commence à détester de plus en plus Rick.
Ouais.
Ah.
Ouais.
Et un peu comme Morty commence de plus en plus à détester Rick, à comprendre que...
On peut le relier aussi, parce qu'on en parlait un peu ce matin avec Roxane, c'est que la troisième saison a vraiment comme sous-texte d'espèce d'analyse de la psyché de Rick, puis à quel point c'est vraiment une mauvaise personne.
Ouais. Exact.
Ouais. C'est ça, je pense que c'est la tendance de la troisième saison de nous faire réaliser que Rick, c'est pas le personnage qu'on idéalise dans les deux premières saisons, où il a peur de rien, justement, il est révérencieux, il s'en fout un peu.
Dans le même sens, la troisième saison fait évoluer beaucoup le personnage de Morty aussi.
Oui. Énormément.
Parce qu'il devient pas mal plus intéressant. Au départ de la série, c'est vraiment un petit Jerry.
Oui, vraiment. Ouais, moi, je regardais les épisodes de la première saison hier, puis c'était pas du tout le même personnage que je regardais. Même son assurance quand il parle à Rick est totalement différente, parce qu'il y a une espèce de bris de l'illusion qu'il y a face à Rick comme étant, justement, on le voit vraiment comme un personnage qui est un peu un dieu, puis on voit que cette illusion-là se brise dans les yeux de Morty à un moment donné, tu sais.
Je suis contente qu'on ait le temps d'aborder la relation de Rick et Morty, parce que je trouve que le dernier épisode, Rest and Relaxation, c'est un épisode aussi intéressant où est-ce qu'on voit que la toxicité le point de vue de toxicité qu'ont les individus à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, Morty, ce qu'il a sorti de lui, c'est toute sa couardise, sa peur et tout ça. Mais Rick a sorti donc toute son espèce de côté qui lui-même, donc, de son point de vue, son désir d'acquérir du pouvoir et d'être le plus fort et d'être Dieu est perçu comme une toxicité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que il y a quelque chose d'hyper présent à travers toutes les saisons de Rick and Morty. C'est pourquoi un personnage aussi cynique et nihiliste que pourrait être Rick accorde autant d'importance à Morty. Des fois il va l'expliquer par le fait que bon ben c'est ta présence, t'es tellement poche que tu couvres mon intelligence et tu m'es donc utile. Ce n'est qu'une relation complètement d'utilisation de ta personne et utilitaire. Ouais, c'est ça. Et par exemple t'as plusieurs épisodes où est-ce que on voit que Rick va toujours quand même aller sauver Marty, même s'il va toujours avoir une bonne raison d'expliquer en arrière de son geste quand il va sauver Jerry, quand il va aller sauver dans le premier épisode de la saison 3, quand il va aller sauver Marty et Summer, puis qu'il va dire c'était juste pour votre mère, mais dans le fond il donne d'importance donc au jugement et à sa présence dans la maison avec Beth. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Rick il a dans sa toxicité a sorti son appréciation de Marty. C'est pour ça que lorsqu'il donne une claque dans la face à Marty, il se rend compte que moi, j'ai aucun sentiment de culpabilité de te frapper. Donc, c'est dans mon côté négatif qu'est l'amour que je te porte et que c'est dans ma faiblesse et que l'appréciation, mon appréciation de toi est une faiblesse. Donc, techniquement, ce que les auteurs semblent nous dire, même s'ils peuvent nous dire tout et son contraire, c'est que Rick aime Marty, même s'il te fait à croire qu'il l'aime pas du tout.
Je trouve que ça écho bien avec ce que je disais tantôt sur le fait qu'il essaie d'expliquer tout scientifiquement. Puis, je pense que pour Rick, là, c'est une grande analyse de la psyché de Rick, de Rick là, mais je pense que pour lui, son amour envers sa famille, son amour envers Marty sont des choses qu'il peut pas expliquer de manière scientifique, même s'il essaie toujours de le faire.
Mais il y a aussi le point de vue, parce qu'on sait qu'il est très attaché à sa rationalité, le fait que l'amour qu'il a pour sa famille, c'est une faiblesse parce que ça peut être un levier qui peut être utilisé contre lui. Ça, c'est, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il considère que cet amour-là, c'est une faiblesse. C'est parce que ça peut faire des choses qui vont mettre sa vie à lui en danger, parce qu'on sait qu'il est très, très narcissique aussi. Là. Donc, il y a ça
quoi?
Qui
rentre. Rick est narcissique?
Mais oui. Surprenant.
Mais oui.
Et ça va de même, c'est ça, parce que lui, il doit se débarrasser de quelque chose de foncièrement positif. Mais en même temps, Marty, c'est ça, je suis comme contre-argumenté le fait que Marty, c'est peut-être un des meilleurs personnages, c'est peut-être lui qui a raison. Marty, il se débarrasse des affaires qui font de lui un humain, parce qu'au final, il devient, quand on lui enlève tous ces éléments, il devient...
The Wolf of Wall Street.
The Wolf of Wall Street.
C'est ça, il devient Leonardo DiCaprio dans le film de Scorsese.
Mais même son côté Wolf of Wall Street, à la fin, fait exprès de s'autodétruire. Parce que il dit ah regardez j'avais pas éteint ah c'est l'appel est pour l'appel est pour
il y a un acte manqué parce qu'il n'est pas raccroché
puis c'est en tout cas vous le réécouterez là, je l'ai écouté hier là, mais c'est clair là, comme que il a fait exprès de s'autodétruire.
Intéressante analyse. Moi je pensais qu'il essayait encore plus de faire mal à Jessica en laissant le téléphone ouvert puis en lui faisant entendre la conversation qu'il est capable d'avoir avec sa blonde. Ça, c'est encore un jab à elle de dire t'aurais pu être à cette place là.
Parce que en tout cas, moi je l'ai vraiment perçu comme un, tu sais, comme je pense qu'il dit aussi à Rick genre do what you have to do, ou comme il y a quelque chose comme
il y a quelque chose qui se rajoute pour
Mais il se laisse faire là, il combat pas. Je pense qu'il a peut-être que j'ai l'impression que peut-être il l'a vécu et là il peut passer à autre chose. Il y a beaucoup ça. Marty va vivre une panoplie de sous-vie à travers le fait de devenir père, le fait de
oh,
tu sais, il devient père, il va
le jeu vidéo Roy
aussi qui est comme Marty a énormément de vécu et en tout cas c'est il va vivre donc à travers la vie des autres, puis il va lui-même devenir donc va passer d'un différent rôle à un autre à travers la série,
parce qu'en plus Marty, l'univers dans lequel il vit, c'est pas l'univers duquel il vient. Son univers à lui a été complètement détruit.
Cronenberg.
Je m'excuse. Donc ça, tu sais, c'est un personnage qui a vécu des choses absolument formidables. Moi, je trouve ça formidable que les auteurs ont été capables de transférer justement la manière dont Marty a vécu toutes ces aventures-là, puis aussi de faire évoluer son personnage avec ces aventures-là, parce que ça aurait été facile de garder la recette de la première saison, de laisser cette dynamique-là constamment entre Rick et Marty.
Son bagage traumatique s'accumule.
Qui est exactement ce qu'on nous a montré dans le dernier épisode.
Exact.
Ça, et l'épisode aussi où ils vont chez la psy, puis...
Oui, quel excellent épisode.
Puis que Marty veut continuer à y aller.
Ben, c'était la tablée idéale pour faire une telle émission. Je veux vraiment tous vous remercier chaleureusement et profondément pour un épisode exceptionnel sur Rick and Morty. Encore, merci aux auditeurs. Si vous avez apprécié, vous pouvez toujours aller nous apprécier sur les plateformes numériques. Donc, sur iTunes, vous pouvez vous abonner avec le fil RSS. Et vous pouvez venir à notre 150e épisode où la majorité des gens qui sont ici, vous allez pouvoir les rencontrer en chair et en os, avec tout leur intellect brillant et assourdissant. Donc, je vous laisse avec les dernières phrases qu'on y, on s'est tous, on a tous tenté de se remémorer durant l'émission, mais au moins, on va toutes les avoir ici.
« Have a lot of really weird made-up-sounding catchphrases. »
Wubba lubba dub dub! Ricky ticky tavy bitch! And that's the way the news goes. Hit the sack, Jack. Uh-oh, somersault jump. AIDS! And that's why I always say, shum shum, slippity dop. Grass! Tastes bad. No jumping in the sewer. Burger time! Rubber baby baby bunkers! Lick 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 my balls! Ha ha ha! Yeah! Say that all the time.